Bonsoir et vous êtes bien sur l'émission Coup de cœur jusqu'à 20h sur Radio Coup de Foudre. J'ai une invitée ce soir. Pour ne pas changer, c'est encore une femme. Pas n'importe laquelle puisque vous la connaissez, Carougien, Carougienne. Il s'agit de Julie de Laurenti. On a la chance, l'honneur de recevoir Julie.
Salut Denis.
Et c'est une joie que tu aies accepté de venir dans l'émission.
Merci beaucoup de m'inviter, et puis bonjour à tous les Carougiens et Carougiennes et tous ceux qui, où on a dit jusqu'où était diffusée cette radio, donc tous ceux qui nous écoutent ce soir, bonsoir. Ouais.
Et puis partout sur le net, hein, radiocoupdefoot.fr, on peut nous écouter de partout dans le monde même. Donc c'est le moment de gloire.
Oh là là, donc, I'm going to speak in English.
Yeah. Alors je t'ai invité parce qu'on m'a dit, mais il faut que tu invites Julie, parce que c'est le coup de cœur à Carouge. Elle fait des choses avec passion et dans le monde du théâtre. Alors moi, je ne te connais pas, donc je vais te demander de te présenter tout simplement.
Donc voilà, je m'appelle Julie de Laurenti et donc je suis comédienne et autrice et metteuse en scène. Voilà, j'ai fait un peu de réalisation aussi à un moment. Et voilà, mais j'ai vraiment une formation de comédienne à la base. Je suis toulousaine, comme vous pourrez l'entendre parfois, mon accent qui déraille. et voilà. Et puis j'ai fait, en fait, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, les histoires. Les histoires d'abord par le cinéma, puis après le théâtre. Et puis donc directement après le lycée, j'ai fait le conservatoire de Bordeaux.
Okay.
Et puis je suis allée ensuite à Paris.
Okay.
Et donc là, à Paris, j'ai pu, en tant que comédienne, un peu faire de la télé. Et puis après... un tout petit peu de cinéma, mais j'avais vraiment envie de retourner au théâtre.
Et c'était ta passion au départ, tu faisais
ouais,
ça pour
vraiment.
Le théâtre.
En fait, ouais. C'est marrant parce que même les plus grands, donc je vais citer Denzel Washington,
wow.
mais qui dit voilà que le cinéma c'est vraiment pour les réalisateurs, les scénaristes, c'est vraiment on va dire leur média à eux de raconter les histoires parce que l'acteur on est quand même assez
utilisé.
Voilà, on est vraiment, on attend beaucoup. Il faut être super prêt, il faut être super concentré. Mais voilà, on a peu de place pour vraiment s'exprimer. Alors qu'au théâtre, voilà, une fois qu'on nous a lâchés, c'est sans filet et c'est pendant 1h30, voire 2h30 quand on fait des spectacles de Julie de Laurenti. Où voilà, on est plongé dans l'histoire et c'est vraiment l'art de l'acteur.
Okay.
Donc voilà, je suis revenue au théâtre et j'ai voulu continuer ma formation après le conservatoire. Donc j'ai travaillé avec le Gitis de Moscou, donc c'est vraiment l'art russe de l'acteur, et puis avec le laboratoire Grotowski aussi, là c'est plus les Polonais, et puis parce que j'avais été déjà un peu formée par un des disciples de Emir Kusturica qui venait donc du conservatoire de Sarajevo, donc j'adorais en fait ce théâtre un peu slave et qui engageait à la fois le corps et qui avait évidemment posé les bases de la psychologie de l'acteur avec Stanislavski, tout ça. Donc ça me passionnait. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que tous ces Russes avaient passé l'océan Atlantique et c'était eux qui avaient apporté vraiment leur savoir aux États-Unis. Et donc j'ai découvert après les méthodes américaines et je suis partie à New York.
Ok.
Donc je suis partie à New York pour apprendre justement ces méthodes-là. J'ai travaillé avec le Living Theater et puis après j'ai été assistante metteur en scène là-bas d'un immense auteur réalisateur qui s'appelle John Patrick Shanley qui a été prix Pulitzer, oscarisé. Donc c'était mes premiers pas à Broadway, mais voilà, en tant qu'assistante metteur en scène, c'était absolument extraordinaire. Et puis de ça, en fait, j'ai eu envie de créer ma compagnie de théâtre franco-américaine à Paris parce que j'avais envie de faire un pont entre Paris et New York. Et donc c'est ce que j'ai fait, ça s'appelait The Big Fun Company, qui existe toujours d'ailleurs. Et puis après, voilà, j'ai rencontré mon compagnon et mon voilà qui sera peut-être invité aussi parce qu'il a beaucoup de choses à dire aussi sur sa passion, mais Manuel Olinger, donc avec qui on a cette compagnie Divart. Donc on avait commencé par faire des spectacles ensemble et puis on cherchait juste une petite maison dans la prairie pour
pour vivre.
pour passer les week-ends, les vacances. On cherchait, on s'était dit pas trop loin de Paris et donc on a cherché longtemps une petite maison et puis un jour on est tombé sur
un château.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est tombé sur j'appelais ça le blockhaus, même si c'est très très beau au niveau de l'architecture, mais c'est juste que c'était un bâtiment énorme avec des fenêtres énormes, et puis c'était en sortie de bourg, enfin c'était pas du tout ça qu'on cherchait. Et puis un jour, j'ai dit, bon, on va quand même aller le visiter, voir comment c'est à l'intérieur. Et voilà, on a regardé par la fenêtre et on a vu qu'il y avait une sorte d'entresol. Et puis donc on est rentré avant que l'agent immobilier nous fasse rentrer. On est rentré un petit peu comme ça discrètement. Et là, on est arrivé sur scène et on a dit mais c'est un théâtre. Pourquoi c'était pas marqué sur l'annonce ?
Wow.
Mais parce que ça n'intéresse personne à part des artistes comme nous, un peu fous. On avait 2 jours pour donner notre réponse parce que ça appartenait à la CDC et qu'il y avait un conseil communautaire et il y avait déjà des personnes qui s'étaient présentées. Donc nous, on a écrit une lettre. On a dit que c'était un coup de cœur. On sait bien qu'il ne faut pas acheter sur un coup de cœur. Mais en même temps, on est dans l'émission coup de cœur. Et ouais. Donc, voilà. Et donc, on avait dit, bon, mais dans un premier temps, on va en faire notre habitation. Dans un second temps, voilà, à moyen terme, ce serait un lieu de
résidence. Pour jouer votre vie, en fait.
D'artiste, ouais, voilà. Et sur le long terme, on voulait vraiment réhabiliter ce lieu et lui redonner ses ordres de noblesse et puis en faire un lieu de rassemblement.
Je te coupe, Julie, mais pour la CDC, pour ceux qui ne connaissent pas, alors, c'est un organisme de la culture.
CDC, c'est la collectivité. C'est la communauté de communes, en fait. CDC.
Ah, ok.
Donc, ça réunit.
C'est moi qui n'avais pas compris.
Voilà, c'est la communauté de communes du Pays Fertois et du Bocage Carougien qui réunit toutes les communes, justement, autour. Alors, le siège, maintenant, il est à Manille-Désert, et puis ça réunit toutes les communes. Donc, ça va de Manille-Désert, je pense qu'il y a le plus à l'ouest de la CDC.
D'accord.
Carouge, la Lande de Gouges, Jouer-du-Bois, voilà, Ménil-Séleur, Sainte-Marguerite de Carouge, Sainte-Martin-des-Landes. Enfin, voilà,
tous ceux qui nous écoutent sur le 104 FM.
Exactement.
OK.
Voilà, donc c'est toute cette. Cette communauté de communes. Et donc, c'est eux qui nous ont vendu ce théâtre, qui était quand même vraiment, vraiment en ruine.
Ah oui. Ah oui.
Voilà.
Ah oui, c'était de coup de cœur, mais
c'est
avec
ça.
Des paillettes dans les yeux. Puis quand vous êtes revenu, vous avez dit, ah oui.
Il fallait beaucoup d'innocence,
ouais, voilà.
Beaucoup de passion et une vision. Quoi. Fallait se projeter très loin. Okay. Pour... Alors après, c'est un cachet incroyable. Je veux dire, c'est vraiment... Nous, tout de suite, on a fait la référence aux les Bouffes du Nord, avec les murs défraîchis, le manteau d'Arlequin, la scène, elle est en pan incliné. C'est vraiment la scène à l'italienne. Voilà. Ça. Et puis, on sentait qu'il y avait une histoire forte et on s'en est rendu compte rapidement. Parce que, donc, c'est nous qui avons décroché la timbale. Hein, c'est nous qui avons eu le pompon. Voilà. Des 3 personnes qui avaient présenté leur dossier, c'est nous qui avons gagné. On a gagné d'avoir toutes ces... Comme nous dirait Francis Lalanne, qui était venu faire le spectacle Un tramway nommé Désir avec nous, il était venu répéter alors que vraiment, c'était pas chauffé. On répétait Un tramway nommé Désir qui est supposé se passer à la Nouvelle-Orléans, où on se mettait de l'huile sur le corps pour montrer à combien il faisait chaud, mais on a répété en doudoune et on a eu très très froid pendant toutes ces répétitions. Et il disait, donc vous, quand vous avez vu ça, vous vous êtes dit, je veux tous ces emmerdements, quoi. Vous vous êtes dit, c'est pour moi. Eh ben oui, c'est ça. Enfin, nous, on n'a pas vu ça comme ça. Nous. Voilà. Mes beaux-parents, quand ils sont arrivés, ma belle-mère était sans voix pendant une semaine. Elle regardait tout ça. Puis au bout d'un moment, elle nous a dit, mais donc, on peut se le dire, aujourd'hui, vous avez acheté une ruine. Et on a dit, mais oui, mais on va faire quelque chose d'extraordinaire dedans.
Et on donc, peut voilà, plus reconstruire.
Voilà. Donc, c'était en 2014. Donc, on a fait, en 2014, donc, on a commencé les travaux pour en faire notre lieu d'habitation. Et puis on a fait les répétitions d'Un tramway nommé Désir avec Francis Lalanne, donc en 2016. Et donc, ça commençait à être un peu résidence d'artiste, on va dire, hein, on peut le dire. Dans le froid, mais tout de même. Et puis après, c'est vraiment en 2019 qu'on a complètement implanté la compagnie ici à Carouge et qu'on a eu envie de commencer à se faire... Parce qu'on a compris que rénover le théâtre, ça serait long. Donc on s'est dit, on va arrêter de juste s'enfermer entre 4 murs à faire des travaux. Surtout Manuel Olinger, donc mon compagnon qui prenait en charge... voilà, on appelait ça Terre Viking et c'était vraiment un viking. Il portait les madriers tout seul. Donc, il faisait les trous des planchers. Mais donc, voilà, on s'est dit, on va peut-être essayer de se faire connaître aussi ici sur le territoire et
la
montrer ce qu'on avait envie de faire.
La compagnie, vous l'aviez créée à Paris et donc vous l'aviez
Alors, la compagnie, c'était mon compagnon qui l'avait avec son père en Rhône-Alpes. Donc, parce que c'était là qu'ils avaient... Ils faisaient partie d'une friche d'artistes.
Compagnie Divart. Hein.
La compagnie Divart, voilà. Ouais. Elle était là, friche Lamartine. Et puis donc, on l'avait utilisé au début pour faire nos spectacles sans avoir d'autres lieux vraiment de résidence. Et puis, quand on s'est implanté dans le théâtre, voilà, on a dit on la déménage et on l'amène ici.
Une compagnie, c'est comme une entreprise. Tu as un lieu
Il y a un siège social.
Ouais, un siège social, ouais,
un siège social. Alors, on aurait pu en créer une nouvelle avec un nouveau nom, une nouvelle entité. Mais c'est vrai que comme on avait commencé déjà à faire des choses avec elle, voilà, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir dire ben, ça, c'est les spectacles qu'on avait déjà créés avec cette compagnie avant.
Une continuité.
Voilà, qu'il y a une continuité, en tout cas, de ces artistes qui ont participé. Et donc voilà, on l'a juste déplacé. À Carouge, et donc on a commencé à faire des spectacles ça, tout de suite après le Covid, en fait. Moi, j'ai lancé la production, on va dire, en 2020, et en 2021, on a fait le premier spectacle, Le Mystère du Dernier Duel, qui était un spectacle que j'avais écrit sur mesure pour le château de Carouge et la Maison du Parc, puisqu'à la base, c'est le domaine historique, en fait. Là, aujourd'hui, c'est deux entités différentes. Le château de Carouge appartient au Centre des Monuments Nationaux, et la Maison du Parc, c'est le département. C'est le parc naturel régional Normandie-Maine et Géoparc, il ne faut pas que j'oublie. Mais donc voilà, ces deux entités, historiquement, c'est le seigneur de Carouge du château, qui était Jean Blossé, qui a construit la collégiale. C'est sa femme qui avait ordonné ça parce que justement, elle voulait sauver son âme, parce que Jean Blossé, c'était un peu l'homme de l'ombre de Louis XI. C'était lui qui s'occupait d'aller voir les seigneurs qui avaient un petit peu d'autres aspirations ou d'autres ambitions, et il leur prenait le château, les biens, et puis s'en mettait toujours un petit peu de côté. Ça a permis de rénover pas mal le château de Carouge à cette époque-là, de faire pas mal de travaux.
Un cours d'histoire en direct.
Ouais, voilà. Mais donc voilà, c'est le château de Carouge, il y a des seigneurs qui ont vraiment marqué l'histoire, donc Jean Blossé et puis Jean de Carouge avec le dernier duel judiciaire, ouais. Voilà, qui a été porté à l'écran par Ridley Scott, et je tiens à dire que notre spectacle est sorti avant le film de Ridley Scott. Juste un mois avant, mais en fait on s'était basé un peu sur le même livre de Eric Jäger. Mais donc c'était à la base avec Yolande Dollier, qui était chargée de mission culture à la Maison du Parc, que j'avais rencontrée. Je lui avais dit j'aimerais beaucoup écrire un spectacle pour ce lieu, et donc on était parti. Si les murs pouvaient parler, que nous dirait-il? Et donc, ça devait être juste avec quatre comédiens. Et puis finalement, grâce à la région, la DRAC, la communauté de communes, la commune de Carouge qui nous ont soutenus, le département, on a pu vraiment faire un énorme projet tout de suite, avec vraiment une belle envergure, et faire appel aux habitants pour participer. Donc, c'est là que cette passion est née pour moi, parce que c'est vrai que le métier d'artiste, on est quand même assez seul. On est sur une trajectoire assez individuelle de carrière. Et il y avait quelque chose qui me manquait énormément dans cette trajectoire-là.
S'embarquer en collectif, en fait.
Voilà, c'est-à-dire l'utilité de tout ça, en fait.
Oui.
C'est que, parce que moi, ce qui m'habite, c'est vraiment raconter des histoires, mais raconter des histoires à qui et pourquoi. Et voilà, et donc de faire...
Et avec qui ?
Et avec qui, voilà, parce qu'en fait, c'est ça crée du lien. Les histoires, c'est ça qui... on est des animaux... un animal social, et c'est ça qui nous réunit souvent, c'est les histoires ou la musique, ou c'est la culture qui nous réunit souvent, parce que si on est réunis pour d'autres choses, en général ça finit mal.
C'est ce qui, comme tu disais, l'animal culturel, c'est ce qui nous différencie des animaux, c'est
voilà.
Que y a la culture,
exactement. Et donc c'est vrai que avec ce projet là il y a quand même eu, dès la première année, 80 bénévoles qui ont participé, figuration, danse, chant, petit rôle, à la technique.
C'était, et vous n'avez pas embauché pour les travaux, du coup?
Non, pas encore. On a commencé là. Cet été, ça a commencé. Ils ont monté les gradins de notre théâtre de verdure, parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment ouvert le théâtre à l'intérieur, parce qu'on n'est pas encore aux normes.
Ah, okay.
Mais on a ouvert le théâtre de verdure vraiment l'année dernière. Et donc, on espère avoir une programmation... cet été, parce qu'on a un très bel écrin déjà, et on avait hérité des gradins du théâtre des Quartiers d'Ivry, qui avaient été dessinés et commandés par Antoine Vitesse, qui était un grand metteur en scène des années 60-70, voilà. Et donc on est très heureux d'avoir ces gradins, parce qu'ils sont magnifiques en bois, en métal. Et donc on les a étrennés cet été en faisant notre deuxième spectacle. C'était la deuxième année qu'on le faisait. C'est Jean de Florette et Manon des Sources de Marcel Pagnol que donc, j'ai adapté en deux spectacles, donc de 2h30. Donc ça faisait 5h de spectacle si on voulait voir l'intégralité. Et toujours avec les habitants, donc les quatre comédiens professionnels.
J'ai ouï dire que des bénévoles de la radio participaient.
Exactement.
Dont Monsieur le Président.
Ouais, notre Quentin. Président adoré. Voilà, Quentin, Nathalie aussi, Lavanry, oui. JB, Jean-Bruno Adé. Et puis, voilà, Ludovic et Marine, ils avaient participé au mystère du dernier duel aussi. Parce que là, on avait vraiment beaucoup une infrastructure technique assez importante. Parce que c'était surtout tous les espaces, c'était en intérieur, en extérieur, au château, à la maison du parc. On avait Charlie Taillard aussi qui nous faisait du mapping sur la collégiale. Donc c'était une grosse machine. Mais c'est vrai que ça, on est un peu tombé dedans. C'est-à-dire que là, d'un coup, on s'est rendu compte que non seulement on avait envie de réhabiliter ce théâtre, mais qu'il y avait vraiment une mission culturelle sur ce territoire-là et qu'il y avait vraiment une appétence et une envie des gens et de la population pour tout ce qui était culturel, finalement, parce qu'on le voit avec la radio, par exemple, avec les concerts, avec...
Toutes les associations, on en parlait avec Édouard Bénard, qui nous racontait un petit peu toutes les associations qu'il pouvait y avoir, les producteurs locaux, tout...
Il y a vraiment... et puis, il y a une entraide, une bienveillance, il y a quelque chose... Donc, on est un peu tombé dedans. On est tombé vraiment... en plus d'être tombé en amour devant le théâtre, on est aussi... on a eu un gros coup de cœur pour les gens d'ici et pour la manière qu'ils ont eu de se fédérer tous et de suivre parce que je suis assez exigeante en termes de quand je raconte une histoire je veux vraiment vraiment bien la raconter et donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit à ce niveau-là et soit exigeant et j'ai envie que le public il soit transporté donc il faut voilà, c'est un sport d'équipe, donc on s'envoie la balle, et si la balle elle tombe par terre, c'est l'attention du spectateur et ça tombe aussi, quoi. Donc il faut vraiment, et donc tout le monde est vraiment mobilisé autour de ça, et je sais pas si j'aurais rencontré ça partout, je sais pas.
Pour toi, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait.
Oui. Ouais. Okay. Ouais, et c'est ça qui nous accroche, qui
et
nous a complètement.
Et tu as fait la mise en scène, c'est toi qui dirigeais tout le monde.
Oui.
Ou ton compagnon.
Non, lui, il a une part plus importante en tant qu'acteur.
Quand il est plus dans le jeu.
Alors pas que, parce que là sur scène, il fait Jean de Carrouge, il faisait Jean de Florette, mais par contre, c'est lui qui a construit les décors avec les bénévoles, mais c'était le chef d'équipe. Et puis aussi, c'est quand même c'est une énorme infrastructure à chaque fois au niveau du montage et du démontage. Donc, il est aussi le chef d'équipe de ça, même si on est très heureux d'avoir des bénévoles qui toujours nous aident à faire tout ça. Ce serait pas possible. De toute façon, c'est vraiment, vraiment, vraiment un travail d'équipe. À chaque fois, à la fin des spectacles, je leur écris un roman de remerciements, mais parce que chacun, s'ils étaient pas là, ça pourrait pas exister. Un truc aussi énorme. Je dis, c'est du cinéma-théâtre, en fait. À chaque fois, c'est comme si c'était un plateau de tournage qui se déplaçait. D'une ville à l'autre quand on fait des tournées comme cet été ou quand on s'installait au château de Carrouge.
À Carrouge en fait.
Oui, alors on a joué d'abord on a commencé au château de Carrouge à la maison du parc et puis avec le mystère où c'était vraiment sur mesure pour un lieu et après on s'est dit on voudrait essayer de créer un spectacle qu'on pourrait amener un peu ailleurs d'abord sur le territoire de la CDC en fait
pour aller vers le public et...
pour aller vers d'autres publics qui se déplacent pas forcément et qui une fois qu'ils y ont goûté ils se déplacent. Notamment, je raconte des fois cette histoire, mais parce que ça nous avait beaucoup touché. On a joué au manoir de Durcé la première année, Jean de Florette et Manon des Sources. C'était notre premier week-end. Et il y avait un monsieur qui était un voisin, en fait, qui habitait pas loin et qui était juste venu dire bonjour à la famille Breton. Et donc, on avait été là avec l'affiche, on essayait de tracter. Et il a dit oh, non, moi, le théâtre, non, c'est pas pour moi. Non, moi, je suis jamais allé, puis c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Et puis je pense que peut-être la famille Breton a fait un peu a insisté un petit peu peut-être pour qu'il vienne et donc il s'est retrouvé là à la première et donc on avait recréé une place de village devant le manoir justement et donc il y a un gadage en plein milieu et qui nous servait un peu de parce qu'on a une fontaine sur cette place de village donc c'était vraiment au cœur au milieu de la place du village et lui s'était assis là il s'était assis sur le gadage et donc à la fin du spectacle J'étais allée le voir, j'ai fait « Ah, mais c'est super que vous soyez venu !» Et en fait, il était tout tremblant, il était là « Non, mais c'était incroyable! On était dedans! On était dans l'histoire! Mais c'était vraiment, mais oh là là, mais c'est ça le théâtre! Mais c'est, oui. Mais vraiment, mais c'est merveilleux! Mais vraiment, je pensais pas, on est... j'étais dedans !» Il arrêtait pas de le répéter en boucle, c'était dingue. Et voilà, c'est vrai que ça, c'est aussi une particularité du des spectacles qu'on fait ici, c'est que j'appelle ça c'est des spectacles immersifs. Ça, c'est ce que j'ai ressenti, moi, en tant que spectatrice à New York, dans certains spectacles. Où c'est né de là-bas, en fait, les spectacles immersifs. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est-à-dire que c'est un mélange. C'est pour ça que je dis que c'est du ciné-théâtre. C'est ce que j'ai aimé, moi, dans le cinéma. Quand je me suis retrouvée sur un plateau de cinéma, je me suis dit, waouh, c'est génial. C'est quand on est vraiment dans le décor. On n'a pas besoin d'imaginer, même si c'est génial aussi, ce travail-là d'acteur au théâtre. Mais je veux dire, là, on est en train de vivre l'histoire. Moi, je me suis retrouvée au château de Versailles avec Pierce Brosnan qui devait jouer Louis XIV. Et puis, tu avais tout le monde, toute la figuration qui était habillée en costume. Et c'était une scène de danse et avec les feux d'artifice. Enfin, d'un coup, j'ai fait...
Tu as fait un bond dans l'histoire.
Oui, voilà. Derrière. On fait un vrai bond dans l'histoire. Et on voyait à peine, en plus, la technique. C'était extraordinaire. Et donc, ça, pour moi, c'était l'endroit du cinéma. Et d'arriver à le reproduire, de pouvoir avoir les deux, c'est-à-dire de pouvoir être... du spectacle vivant, dans du théâtre, et que le public puisse vivre ce que moi j'avais vécu comme émotion en même temps avec tous les acteurs qu'on a, parce que là on a la chance d'avoir, c'est comme si c'était une énorme prod, c'est du Robert Hossein, quoi, alors qu'en fait on a que quatre comédiens sur le plateau.
Je me dis, mais t'as fait du Robert Hossein en fait.
Non, mais voilà, c'est ça, c'est énorme. Mais, et en plus, avec une qualité voilà, on est vraiment en train de raconter des histoires avec du jeu d'acteurs, c'est vraiment des bons acteurs. Et puis tous les comédiens qui sont autour, ils sont portés par ça, du coup, parce que pour moi, c'est tous des comédiens quand ils font les spectacles avec moi. Et ils sont tous portés par ça, voilà. Et donc, on raconte tous cette histoire. Et donc, ça donne vraiment cette immersion au public géniale. Et donc, voilà, le prochain spectacle qui va un peu transporter après tout ça. Là, je suis en train d'écrire, ça y est, j'ai fini d'écrire, enfin la pièce une pièce sur Guillaume le Conquérant, wow. Qui s'appelle « Moi, Guillaume, ou dans la tête d'un conquérant ». Et on va plonger dans les dernières semaines de Guillaume.
Je te coupe parce que tu vas nous en parler juste après, pause musicale.
Mais justement,
tu as ramené des coups de cœur.
Exactement. Et ben, ça tombe bien parce que les trois musiques que je t'ai proposées, c'est les musiques que j'écoute en ce moment en boucle. Parce que c'est les musiques qui vont donner le là de ce Guillaume le Conquérant, en fait. C'est vraiment...
Je te dis, le premier de la playlist qu'on a choisi, c'est Imagine Dragons, Believer.
Voilà, super.
Il y a un lien avec le spectacle ou pourquoi ce coup de cœur ?
Alors, pourquoi ce coup de cœur ? Parce que, on a fait une résidence à l'Aigle l'année dernière. On va y jouer d'ailleurs le 3 avril notre spectacle, Moi, Guillaume, dans la tête d'un conquérant. Et c'était une musique que j'ai passée, et celle d'après aussi, le Fire, que j'ai passée en fait pendant la résidence. Et c'était parfait en fait. C'est-à-dire que les paroles, déjà, elles racontent vraiment cette traversée de la Manche. Elles racontent ce monde justement des rois, des morts qui nous pourchassent. Donc le texte me parlait vraiment. Et il y a dans la musique qu'on va utiliser pour ce spectacle vraiment un côté aussi tribal. Voilà, il y a ces revenants qui sont toujours là, qui le hantent, tous ces morts. Et puis le côté rock aussi anglais qui va bien se prêter à l'univers de Guillaume le Conquérant. Voilà.
Donc Believer, Imagine Dragons, et puis on se retrouve juste après. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
rapping is Weezy the dragon. I link with the dragons and we gon' get ratchet. No need for imagining, this is what's happening. Second thing second, I reckon immaculate. Sign about accurate. I know the strength that don't come without strategy. I know the sweet that don't come without cavities. I know the passages come with some traffic. I start from the basement, end up in the attic. And third thing third, whoever coming out, they simply can't count. Let's get mathematic. I'm up in the school. Is you a believer? I get a unicorn out of a zebra. I wear my uniform like a tuxedo. This dragon don't hold his breath, don't need a breeder. Love you, Miss Cedar, the son of a leader. I know the blooming don't come without rain. I know the losing don't come without shame. I know the beauty don't come without honey. Hold up, hold up. Last thing last. I know that torture don't come without wane. I know that losing don't come without gain. I know that beauty don't come without, don't come without. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Vous êtes bien dans l'émission Coup de cœur l'émission sur Radio Coup de Foudre avec Julie Delorenti, notre invitée coup de cœur de ce soir jusqu'à 20h. Et donc après ce premier coup de cœur musical, tu peux nous reparler du coup de ton spectacle que tu viens de finir d'écrire.
Voilà, donc moi Guillaume ou dans la tête d'un conquérant. Voilà, c'est une pièce qui raconte les dernières semaines de Guillaume le Conquérant, puisque lui, il a
donc
vécu jusqu'à 60 ans.
Donc après avoir envahi l'Angleterre.
Et... Ah oui, mais voilà, oui, parce qu'il avait 40 ans quand il a envahi l'Angleterre et il est mort à 60. Donc il y a eu 20 ans dont on ne parle pas trop, parce que c'est 20 années où il a dû imposer sa victoire et imposer cette conquête en Angleterre.
Est-ce que, alors là, du coup, tu m'intéresses, parce que j'aime bien Guillaume le Conquérant, tu vas parler de... la période où il a déplacé le royaume, le chef-lieu, je sais pas comment on dit, la capitale de son royaume, mm-hmm. qui était à Fécamp, pour le mettre à Caen.
Ah oui, bah oui, bien
sûr. C'est dans ces 20 dernières années, non?
Alors,
ou c'était avant ça?
Je pense que c'est avant ça.
Ok.
Ça, c'est avant, parce que justement, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'il a vraiment eu des phases très différentes dans sa vie. Et donc, c'était très, j'avais envie de faire quelque chose sur lui depuis qu'on est arrivé en Normandie. En fait, on a fait la première fois qu'on a fait le trajet Carouche-Caen. Évidemment, on est passé par Falaise. Le château de Guillaume le Conquérant, mais qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'avais fait un voyage quand j'étais en cinquième, un voyage linguistique avec ma prof d'anglais sur les traces de Guillaume le Conquérant. Moi, toulousaine.
De Toulouse.
Moi, wow. Toulousaine. Voilà, j'avais fait ça. Et donc, j'étais passée par d'abord toutes les villes normandes qui étaient importantes. Pour lui, on est allé voir la tapisserie de Bayeux, et puis après, on avait pris le ferry, on était arrivé en Angleterre, et on est arrivé jusqu'à la Tour de Londres, où je m'étais dit, waouh, pour construire ça, il ne devait pas se sentir hyper en sécurité là, quand même. Et puis, c'est vrai qu'il y avait toute cette légende autour de sa relation avec Mathilde. Enfin, c'est un personnage qui m'avait toujours un peu fasciné. Et puis, c'est vrai, quand on est arrivé là, j'ai dit, oh, le château de Guillaume le Conquérant, je veux aller le voir. Et puis, il me dit, ce personnage, il a l'air tellement... c'est une légende, en fait. Il y a un côté comme ça, intouchable et en même temps mystérieux, parce qu'on ne sait pas grand-chose de lui. On connaît ce qu'on dit, les faits et gestes, parce qu'à cette époque-là, c'est le début des chansons de gestes, ce qui veut dire c'est les actions de ces personnages historiques comme Charlemagne, voilà, avec la chanson de Roland. Mmh. Et donc, on raconte le côté épique de ces personnages. Mais ce qu'il y a dans l'envers du décor, ce qu'il y a vraiment dans la psychologie du personnage, il y a très peu de chroniqueurs qui en ont parlé, parce que bah, y a les chroniqueurs de son vivant, ils étaient là pour écrire sa légende. Et puis après, les siècles après, bah, c'était sa descendance qui était toujours au pouvoir. Et donc, ils étaient à la solde aussi de ses enfants ou de ses petits-enfants. Et donc, on réécrit l'histoire comme on veut, mais voilà, sans rentrer dans les détails, justement, qui peuvent être un peu plus complexes à traiter. Et moi, j'ai été vraiment captivée et capturée par le personnage quand j'ai appris que, justement, autour de 50 ans, 55 ans, en fait, il a commencé à se disputer avec son fils aîné. Parce que justement, il avait beaucoup de mal à lâcher du pouvoir. Il voulait pas, en fait, alors qu'il était censé avoir eu le duché de Normandie, Robert, son fils. Il lui donnait rien, il lui donnait pas de responsabilité. Et donc, il s'est senti petit à petit un peu humilié, ce Robert. Et donc, il est parti. Et le roi de France en a profité pour essayer de le rallier à sa cause. Et donc, ils se sont retrouvés à mener une bataille l'un contre l'autre. Père-fils, et on dit que la seule fois où il est tombé de cheval, c'était face à son fils, et qu'il est tombé et que son fils aurait pu l'achever, et en fait son fils l'a relevé, et ils sont partis chacun de leur côté, et voilà, et Mathilde a réussi un peu à les réconcilier. Et puis en plongeant dans cette histoire-là, donc ça m'intéressait, ce rapport père-fils, et puis donc j'ai commencé à plonger dans ce personnage et dans cette psyché, justement, c'est pour ça, c'est dans la tête d'un conquérant, et de replonger dans son enfance, voilà, où d'un coup, à 8 ans, il se retrouve duc de Normandie, son père est mort en partant en croisade à Jérusalem, et en fait, il va passer toute son enfance jusqu'à ses 19 ans, où vraiment, il impose à Vallès-Dunes son titre de duc. Jusque-là, après, il est caché. On essaye tout le temps de le tuer, de l'assassiner. Il y a son tuteur qui se fait égorger dans son lit. Donc, il a eu une enfance assez traumatisante. Et donc, on comprend qu'il ait du mal à faire confiance autour de lui. Voilà. Et donc, quand vraiment, après, donc il a eu une tentative d'assassinat donc à Valognes. Et c'est son bouffon qui est allé le prévenir, en fait, qu'il y avait un complot et qu'il allait se faire assassiner. Donc, il a fui. Donc ce petit bouffon lui a sauvé la vie. Et donc après, il y a eu Vallès-Dunes, il est allé chercher les renforts auprès du roi Henri Ier. Et puis donc, il a pu enfin dire, voilà, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi et donc vous êtes mort. Donc on dit l'Orne était vraiment couleur sang, tellement ça a été sanglant. Et donc à partir de là, de 20 ans à 40 ans, il a vraiment assis son autorité en Normandie. Donc il a voulu évidemment se marier. Parce que lui, là, tout le problème, c'était qu'il était bâtard, parce que Robert, il n'avait pas épousé Arlette, sa mère. C'était une concubine, mais c'était la tradition viking. C'était pas vraiment choquant, mais ça, comme on était en train vraiment d'essayer d'asseoir la chrétienté en Normandie, c'est pour ça que Guillaume a vraiment voulu être légitime et se faire vraiment reconnaître par le pape et accompagner, parce qu'il voulait éliminer, un peu effacer tout ce qu'il a. Tout ce qui lui avait porté préjudice, voilà. Et oui, et puis qui lui avait porté préjudice enfant. C'est pour ça qu'on voulait sa mort, parce qu'il était bâtard et qu'il n'était pas légitime à être le duc de Normandie. Donc, il a épousé la reine Mathilde. Enfin, aujourd'hui, on est la reine Mathilde, mais à l'époque, c'était Mathilde de Flandre, qui était de sang royal. Voilà. Donc, on dit que cette Mathilde, au début, quand on lui a dit que le bâtard Guillaume de Normandie voulait l'épouser, elle ne voulait pas du tout. Donc il a fallu la persuader. Et donc voilà, il y a eu 20 ans où il est en Normandie et où il a son autorité. Il crée vraiment, il administre vraiment la Normandie. C'était un grand stratège et un grand politicien, en fait, qui a su s'entourer très bien de conseillers. Et puis voilà, après il y a toute cette polémique autour de cette couronne d'Angleterre qui lui avait été promise par Édouard le Confesseur, qui était de sa famille, en fait, puisque c'était le fils d'Emma de Normandie, qui, elle, était sa grand-tante, en fait, à Guillaume le Conquérant. C'est encore une histoire magnifique avec Emma de Normandie, mais voilà, Guillaume le Conquérant, on lui a promis cette couronne. C'est pas pour tout de suite, hein, il faut que Édouard le Confesseur meure d'abord, mais il n'a pas de descendant, et c'est censé être lui. Et puis, voilà, Harold, lui... C'est une famille une famille anglaise très puissante, enfin anglo-saxonne, très puissante et très influente, puisqu'ils sont comtes du Wessex. Et donc voilà, lui aussi, il revendique cette couronne. Donc après, bon, je passe tous les détails historiques, évidemment, de cette conquête, mais c'est... Ce qui est fou, c'est que Harold, il aurait passé la Manche, il serait arrivé en Normandie, alors soi-disant pour lui promettre, de la part d'Édouard le Confesseur, lui réitérer qu'il allait être l'héritier, puisque c'était quand même il y a 15 ans qu'il lui a promis, donc l'eau a coulé sous les ponts quand même. Mais lui, il a la mémoire, hein. on m'a promis ça il y a 15 ans, attention. Mais donc voilà, il serait venu et aurait juré sur des reliques. Et donc voilà, quand il s'est fait couronner, deux ans plus tard, il s'est fait couronner. Il a pris la couronne dès qu'Édouard le Confesseur est mort. Il n'a pas très bien pris. Voilà, en plus, après, il y a des. J'ai exploré les chroniques, donc à la fois normandes, anglo-saxonnes, anglo-normandes, et aussi les chroniques plutôt norvégiennes et danoises, qui ont une autre vision aussi de Guillaume le Conquérant, donc c'est intéressant.
Mais là, tu en fais un spectacle, mais tu pourrais même en faire un livre, un livre historique sur. Parce que là, c'est incroyable tout ce que tu as étudié pour.
Ah oui, bah c'est vrai que là, j'en sors là, parce que là, j'ai...
Ça se sent.
Voilà.
Et ça s'entend.
Voilà.
Non, c'est donc, la passion que t'as pour.
Bah c'est vrai que là, voilà. Dingue. Bah là, j'ai vraiment été plongée dedans. Mais donc le spectacle, ça se passe. Donc
oui, on est à la fin. Vraiment.
Donc on est à la fin de sa vie. Donc il a 60 ans. Il s'est plutôt réconcilié. Mathilde est morte depuis 3 ans, donc il a été là. Il est vraiment seul et après sa conquête d'Angleterre, il a dû asseoir donc son pouvoir. Et donc si on interroge des Anglais, pour eux c'est un tyran, c'est un despote, parce que en Angleterre il a été quand même assez assez dur, oui. Assez sanglant et
il a rasé plus d'un voilà. château et plus il a, d'une
famille. Il a construit des châteaux partout, ouais. Des monastères et voilà, il a dévasté le nord où il y avait des révoltes. Enfin voilà,
Mais il y a beaucoup d'Anglais qui sont reconnaissants aussi parce que toute la structure de l'organisation de l'Angleterre date de Guillaume le Conquérant encore maintenant.
Exactement, voilà.
Encore maintenant, il y a encore beaucoup de traces même dans Londres. Même dans d'autres villes d'Angleterre, de Guillaume le Conquérant, tout ce qui est route, tout ce qui est administration, tout ce qui est
c'est incroyable,
l'organisation politique.
Voilà, cette administration et cette politique qu'il avait testée en Normandie déjà pendant 20 ans où ça fonctionnait, il l'a effectivement amené en Angleterre, apporté en Angleterre. Et voilà, c'est un patrimoine énorme aussi, même architectural, parce qu'il a construit 500 châteaux. C'est énorme. À chaque fois qu'il prenait un endroit, hop, il construisait un château. Et puis il a fait ce Doomsday Book dans les dernières années, qui est le premier recensement qui existe, voilà, qui a pu après en inspirer plein d'autres, où il a recensé tout le peuple d'Angleterre pour savoir tout ce qu'il possédait, pour savoir combien il lui devait.
C'était surtout ça.
Mais voilà, c'est ce Doomsday Book, c'est quand même c'est un monument à lui tout seul. Et c'est vrai qu'il l'a fait justement. Mathilde n'était plus là.
Ça en inspirait plus d'un après, hein.
Oui, voilà.
Encore maintenant. Quand on est recensé, c'est pas pour rien.
Voilà, non, mais c'est vrai, bien sûr. Oui. Mais donc il a fait ça, et en même temps, bon, donc dès que Mathilde est morte, il a plus trop vu son fils aîné. Et donc là, quand il a répondu en fait à une bravade du roi de France, parce qu'il était devenu obèse à la fin de sa vie à 60 ans, il était devenu vraiment voilà, obèse, et il n'était pas forcément très bien portant, et il tombait malade souvent en fait. Quand il menait des batailles, il était rapatrié.
C'est le beurre et la crème.
Voilà, c'est trop. C'est la Normandie.
Excuse-moi, Julie, je vais te couper parce qu'on va faire une deuxième pause musicale quand même, hein, pour toi, pour reprendre ton souffle et pour les auditeurs, les auditrices. Et surtout que ça fait partie aussi de l'émission.
Bien sûr, d'écouter de la musique.
Oui, tes coups de cœur musicaux. Et tu as choisi Barnes Courtney, Fire. Dis-nous pourquoi.
Voilà, Fire. Alors ça, c'est un morceau que j'ai découvert avec un autre spectacle que j'avais fait, Fils et filles de paysans, qui était sur la transmission en milieu rural des fermes. De père en fils. Donc c'est vraiment un sujet qui m'habite, cette transmission là et donc c'est un morceau que j'avais découvert au moment où la ferme prenait feu, et je l'écoute aussi beaucoup dans l'écriture de Guillaume.
Alors, c'est parti pour Fire, donc, de Burns Courtney. Merci pour ces explications. C'est parti. Fire, c'était ton deuxième morceau coup de cœur.
C'est ça, que je veux dédier à mon fils Marius, qui a 6 ans. C'est sa chanson préférée depuis qu'on l'a découvert ensemble pour ce spectacle Fils et Filles de Paysans. Et donc, je la
spéciale
lui
dédie. Dédicace.
C'est spéciale dédicace pour mon fils que j'aime.
Coucou Marius.
Donc voilà, c'est aussi une chanson vraiment qui m'inspire là pour Guillaume le Conquérant. Donc parce que pour pitcher rapidement ce spectacle, voilà, on est vraiment... Il a livré bataille contre le roi de France à Mantes et il a été blessé à l'abdomen gravement, grièvement. Et il est ramené à Rouen. Et là, il y a eu plusieurs semaines d'agonie où tous les barons, les prélats se sont pressés autour de lui parce qu'il n'avait pas donné ses ordres de succession et qu'il avait 3 fils. Donc Robert, dont j'ai parlé, mais aussi donc Guillaume le Jeune, Guillaume le Roux et Henri Beauclerc qui deviendra aussi roi d'Angleterre et duc de Normandie. Donc voilà, il a ses 3 fils et il ne sait pas à qui il va donner cette couronne qu'il n'a pas eue de façon très légitime pour lui, à qui il va donner ce duché de Normandie puisque Robert l'a déjà trahi. Normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il a donné ses ordres de succession très tardivement, vraiment à la fin de son agonie. Et là, ça a été un sauve-qui-peut, c'est-à-dire que les barons sont partis dans leur château pour sauver ce qu'il y avait à sauver. Parce qu'ils ont tous un poulain hein, qui défendent plus ou moins. Après, il y a les serviteurs qui ont dévalisé le château, qui ont pris la lingerie, l'argenterie, les tapisseries. Ils ont tout pris, en fait. Et il est mort un peu seul. Et il y a une très belle, un très beau tableau de Charles Lefebvre qui le montre, qui est mort allongé comme ça à l'abandon, avec un bouffon. Voilà, il serait mort seul, mais avec son bouffon, qui est une allégorie de la vérité, de la folie, hautement shakespearien. Et donc, je pars de ce principe-là, qu'en fait, il est avec son bouffon, et que ce bouffon-là, alors peut-être pour un peu l'extraire de ses souffrances, mais aussi parce qu'il est en recherche de rédemption, et parce qu'il est en quête de cette réponse de, à qui il va léguer cette couronne d'Angleterre et ce duché de Normandie. Et donc, avec ce bouffon, il va revisiter sa vie.
D'accord.
Donc, il y a même deux bouffons, parce qu'il y a aussi le bouffon de... C'est le bouffon des dernières heures, et il y a le bouffon qui lui a sauvé la vie, le bouffon de sa jeunesse. Et il y a le spectre de Mathilde qui est là. Et donc, on va pouvoir revisiter cette vie. On fait des va-et-vient entre cette chambre-là où il doit prendre cette décision-là et les souvenirs où donc là, on peut revisiter le concile de Lillebonne où il avait convoqué tout le monde avant de la conquête d'Angleterre, Hastings, Vallée d'Une. Voilà, il y a plusieurs épisodes comme ça qu'on revisite, donc où le public est en immersion. Et où là, il va y avoir évidemment tous ces personnages-là qui vont être joués.
Ils vont faire la traversée de la Manche en bateau, en fait.
Exactement.
Ils vont se prendre l'eau de mer.
Exactement. Mais sur scène, rien. Justement, il y a la proue de la Mora.
Waouh.
Qui sera sur scène.
Non, mais là, j'ai trop envie d'y aller.
Voilà, qui est le bateau que Mathilde a offert à Guillaume pour faire cette traversée. Et donc, voilà, il y a deux versions de ce spectacle. Il y a une version, en fait, où c'est que les comédiens au plateau. Comédien, musicien, marionnettiste, parce que justement, ce que j'ai pas dit, c'est que pour revisiter tous ces souvenirs, on va utiliser de la marionnette. Alors, de la marionnette sous plein de styles, parce que les chroniqueurs, ce sera la forme plutôt de la marionnette à gaine dans un castelet, un peu les guignols de l'info, mais c'est des chroniqueurs voilà, qui se disputent un peu toutes les versions de Guillaume. Et puis, il y a les marionnettes souvenirs, qui sont des mélanges de marionnettes portées, Bunraku, du théâtre d'ombre, d'objets, voilà, pour vraiment animer et faire emporter Guillaume dans un bal fantomatique et un peu fantastique comme ça. Parce que on va le traiter, c'est un roi lear en fait, c'est un roi lear de Shakespeare. Un Macbeth, il est en proie à ses visions, à ses démons, et donc on va vraiment le revisiter comme ça. Et d'ailleurs, je me suis permise d'emprunter des passages à notre grand William Shakespeare, parce que lui, en fait, il a écrit sur tous les descendants de Guillaume le Conquérant, puisque toute la guerre des roses, de Richard II à Richard III, en passant par Henri IV, Henri V, Henri VI, c'est la famille de Guillaume le Conquérant dont il parle, et d'ailleurs, c'est encore la descendance de Guillaume le Conquérant qui est sur le trône aujourd'hui. Hein. C'était intéressant de voir qu'à son époque, il n'a pas pu traiter Guillaume le Conquérant, alors que le roi lear, c'est clairement, ça part du même postulat, c'est ce roi lear qui doit diviser son royaume entre ses trois filles. Et là, notre William the Conqueror, il en est au même point. Il n'a pas pu écrire sur lui parce que c'était l'époque où justement on était en train de changer de religion, en fait. On était en train de revoir toutes les bases de la chrétienté, on passait au protestantisme, et donc c'était un roi dont il n'était pas de bon ton d'en parler à ce moment-là, mais sinon c'est sûr qu'il aurait écrit sur lui. Donc j'en profite parce qu'il l'a distillé dans plein de pièces, et les rapports père-fils de Henri IV et dans Henri V, c'est la bataille d'Azincourt, mais si on l'inverse, c'est exactement les mêmes enjeux que la bataille d'Hastings. Et puis évidemment le délire de Macbeth avec Lady Macbeth qui est vraiment une Mathilde en puissance, et puis aussi évidemment le roi lear. Donc je picore des petits extraits comme ça, parce que j'écris là la pièce en partie en alexandrin et en vers libre, ou en prose quand c'est le bouffon. J'ai utilisé, on va dire, les processus qu'il utilisait Shakespeare pour faire la différence entre les seigneurs qui parlaient en vers, les gens du peuple qui parlaient en prose, et moi voilà, j'ai essayé de faire la différence entre les souvenirs qui sont dans un langage un peu plus courant, on va dire en prose ou en vers libre, et cette fin de vie où il est figé dans sa position, dans sa posture, et figé par la maladie dans son trône, où là, d'un coup, on est dans un vers plus exigeant, qui est l'alexandrin.
Voilà. Mais Je suis estomaqué par tout ce que tu dis. C'est incroyable. Tu sais combien ça représente, combien de mois de travail, tout ce que, parce que tu as lu tout ça, tu as réfléchi à tout ça, tu as écrit tout ça, ça représente, c'est incroyable.
Oui, bah en fait c'est des va-et-vient.
Ne dis pas que tu as fait ça sur 3 mois parce que
oui,
je te
voilà,
pas.
C'est des va-et-vient, c'est que ça fait, on va dire
des
que ça
années.
Fait vraiment, oui, ça fait des années que j'ai réfléchi.
Ah oui.
Parce que vraiment le début, on va dire le premier dossier, il date de il y a 2 ans, on va dire. Et puis après il y a eu cette première résidence à l'Aigle en octobre l'année dernière, donc avec Manuel Olinger et Laurent Musy qui va nous jouer ce bouffon, voilà, qui était déjà notre Hugolin aussi dans Les Pagnols, et qui était pardon notre Bernard Loiseau pour ceux qui ont vu Le Mystère du Dernier Duel, voilà, donc Manuel Olinger évidemment qui était Jean de Carreau, Jean de Florette, et qui sera notre Guillaume le Conquérant.
On invitera donc ton compagnon Manuel Olinger.
Exactement.
Pour nous parler de ses rôles, et puis de ses rôles en tant que comédien, et de ses rôles en tant que membre fondateur aussi avec toi de la troupe, et de ce qu'il y fait.
Exactement.
Quel est son rôle dans
cette carrière.
Troupe. Ouais. Ouais.
Et constructeur là aussi ici, parce que c'est quand même. Mais voilà, donc ce spectacle-là, on va le créer à l'Aigle le 3 avril, donc dans sa version uniquement avec le plateau de professionnels et les marionnettes, et en immersion avec le public. Mais on voulait qu'il y ait vraiment ces deux versions-là qui existent. La version aussi donc avec les habitants, donc évidemment qu'on crée sur le territoire, donc en juin à la Maison du Parc, et ensuite en août, septembre, là, ça sera sur le territoire, donc au Champ de la Pierre, parce que ça fait plusieurs années qu'on y fait des spectacles là-bas, et on est toujours très bien accueillis, et puis le lieu est magnifique. Là, on sera aux forges du Champ de la Pierre, ça va être sublime.
Sur le domaine du comte d'Andigné.
Exactement. On reviendra évidemment au théâtre, parce qu'on aimerait le refaire dans notre théâtre de Verdure, et puis après, dans d'autres villes, on est en train de voir exactement où est-ce qu'on aimerait peut-être le faire à la Motte Fouquet, ça pourrait s'y prêter, mais voilà, on cherche encore peut-être un ou deux autres lieux sur la CDC où on va le faire en août-septembre, donc ce serait... les week-ends, a priori. Et voilà. Et puis après, ce spectacle-là, parce que c'est quand même 2027, c'est le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Donc, il va y avoir plein de choses un peu partout qui vont jaillir par rapport à Guillaume le Conquérant. Et on aimerait pouvoir l'amener sur d'autres territoires. Voilà. Peut-être du côté de Bagnoles de l'Orne, Domfront, sur la CDC de ce côté-là, ou Falaise, Bayeux. Et puis, on a des contacts avec les îles anglo-normandes. Pour peut-être l'amener là-bas, avec Norwich, demain, on est en Angleterre. Parce que moi, donc, comme j'ai travaillé à New York, moi, je suis bilingue. Et donc, la pièce sera traduite en anglais. Sauf Guillaume le Conquérant. Puisque Guillaume le Conquérant, il faut quand même savoir que lui, quand il est devenu roi en Angleterre, il n'a pas cherché à parler anglais. Il a dit, tout le monde va parler français ici. Et donc, c'est pour ça qu'à la cour d'Angleterre, on parle français. Et que le français est devenu la langue diplomatique, même européenne. Parce qu'après, il a eu un énorme impact sur l'Europe, en fait. À son époque et sur plusieurs siècles de sa patte, vraiment, il a créé beaucoup de choses, beaucoup de ponts. Et donc voilà, il parlait français à la cour d'Angleterre. Et donc je tiens à ne pas le traduire en anglais, mais il sera surtitré. Mais voilà, parce que tous les personnages autour de lui parleront en anglais. Donc j'aimerais beaucoup l'amener aussi en action culturelle là-bas, parce que ça permettrait aussi aux habitants de pouvoir donner leur avis aussi sur...
Et tu as le temps de vivre la vie normale de tous les jours. Tu dors aussi la nuit, parce que c'est incroyable tout ce que tu racontes. Tout ce que tu mets en place, tout ce que tu crées, c'est fou.
Oui, oui, mais c'est vrai que c'est prenant. C'est prenant, mais on y arrive justement. C'est un travail d'équipe avec Manu.
Je comprends mieux quand on me disait faut que tu invites Julie. Hein, non, mais vraiment, tu vas voir, c'est au niveau passion. Voilà, on en a eu pour nos oreilles et c'était tellement intéressant. Là, il est déjà presque l'heure de se quitter.
Voilà, et je voudrais donc j'en profite quand même que je suis au micro pour remercier profondément tous ceux qui nous soutiennent pour faire tout ça. Parce qu'en fait, au début, on ne pensait pas qu'on allait rencontrer d'abord tous ces gens, tous ces bénévoles qui se donnent vraiment, qui suent sang et eau pour raconter les histoires avec moi. Donc vraiment un grand merci à tous les habitants qui participent, mais aussi à nos soutiens, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire des spectacles d'aussi grande envergure. Donc évidemment, d'abord la commune de Carouge, Et la, notre maire, Pierre Chivard, parce qu'il est vraiment extraordinaire, il, est, il a même été, fait partie de la, de la troupe, figurant avec sa femme Mireille, la chorale, et puis même encore là, il faisait partie du conseil municipal à Carouge de Manon des Sources quand le génie rural est invité. Donc voilà, c'est vraiment partie de la commune de Carouge. Et puis évidemment, la CDC du Pays Fertois du Bocage Carougien qui vraiment nous soutient depuis le début. Voilà, et les communes aussi de parfois qui donnent aussi des subventions, Saint-Martin-des-Landes, Saint-Marguerite, voilà, mais c'est l'heure, la Motte Fouquet, ils essayent juste de nous dire voilà, on soutient ce que vous faites et vraiment on les remercie énormément. La Maison du Parc, le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, voilà, qui nous soutient aussi depuis le début. Voilà, et comment ?
Et Géoparc aussi.
Et Géoparc. Voilà, parce qu'on a un contrat de territoire, en fait, entre la commune de Carouge, la CDC, le parc et la DRAC Normandie pour faire des choses, justement, pour faire ces spectacles-là. Et sans ça, on pourrait pas, parce que c'est quand même, comme tu le dis, c'est quand même beaucoup de travail. Et c'est beaucoup
c'est
de...
fou.
Donc, on pourrait pas le faire complètement... sans ça, c'est impossible. On a le département de l'Orne aussi qui nous soutient. Et puis là, la région Normandie, qui nous avait soutenus pour le mystère du dernier duel avec un dispositif qui n'existe plus malheureusement, mais qui s'appelait Patrimoine en création, et qui était un sublime dispositif aussi, mais qui a été remplacé par un autre qui s'appelle Droit culturel en territoire normand, qui est vraiment pour les CDC. Donc là, pour l'instant, on en profite avec la compagnie pour ces spectacles-là. Et là, on a été labellisé par la région. Ils ont un label Millennium, justement, pour tous les événements qui vont avoir... lieu entre fin 2026, 2027, début 2028, autour de ce millénaire de Guillaume le Conquérant. Alors, c'est très large parce que ça englobe plein de choses qui ont trait à ce millénaire. Mais donc, on a eu la chance de voilà, que notre projet soit labellisé et ça nous permet de vraiment pouvoir avoir peut-être un petit coup de projecteur supplémentaire pour tout le travail qu'on fait ici, qui est du travail de territoire, mais qui est, voilà, et c'est vrai qu'on le revendique haut et fort parce qu'il y a toujours un peu la différence entre... Ce qui est considéré comme de l'action culturelle ou de la création de spectacles vivants. Voilà, il y a un peu comme deux familles comme ça. Et nous, voilà, ce qu'on fait, c'est vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est des spectacles artistiquement exigeants parce que voilà, on a envie que les gens d'ici, que ce soit les habitants qui participent ou les habitants qui vont voir un spectacle, ils voient un spectacle qu'ils n'ont jamais vu avant et qui les fassent voyager.
On pourrait t'écouter des heures encore, c'est incroyable. Mais on te réinvitera pour que tu nous en parles quand ça va avancer. Parce que là, on va devoir se quitter. Mais juste avant, j'ai une surprise pour toi.
Ok.
Et pour les auditeurs, évidemment. Et tu vas comprendre parce que tu nous parlais que tu avais au début de l'émission que tu avais beaucoup de cordes à ton arc, en fait.
Oui.
Mise en scène, comédienne, tu as dit quoi, réalisatrice,
chanteuse aussi à mes heures.
Chanteuse à tes heures. Bien joué. C'est la surprise de la fin.
Ah, d'accord.
Merci beaucoup, Julie. À très bientôt. Merci à toutes et tous. On se retrouve lundi prochain avec un invité haut en couleur également, à partir de 19h. Donc, et puis le podcast de l'émission avec Julie, vous allez pouvoir avoir sur le site radiocoupdefoot.fr dans les jours qui viennent. Merci, à lundi prochain. Et on se quitte avec Julie et Quentin.
Oh!
Merci beaucoup.
Merci. 3, 4. Don't you know, talking about a revolution song. Don't you know, talking about the revolution song. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting round waiting for promotion. Don't you know, talking about the revolution song. Poor people gonna rise up and take what theirs. Poor people gonna rise up and take what they share. Ça va être à vous. Oh, you know you better run, 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 run. Encore. Oh, you know you better run, 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 run,
talking about the revolution. So hold on. Now you know you better run, 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 and run. Talking about the revolution. So hold on. Finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. So hold on. Finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. So hold on. Oh, there. Standing at the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting round and waiting for promotion. Don't you know, talking about the revolution song. Encore à vous? Oh, you know the better run, 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 and run. Oh, you know you better run, 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 and run. Talking about the revolution, so hold on. Talking about the revolution, so hold on. Talking about the revolution, so hold on.
Merci, merci beaucoup. Et merci d'applaudir aussi Julie, pas que moi.
Merci aussi d'applaudir Quentin, pas que moi.
À du coup, sans Quentin.